Et nous accueillons Pascal sur Europe 1. Bonsoir Pascal.
Bonsoir Olivier.
Comment allez-vous Pascal ?
Très très bien.
Bon.
Merci beaucoup.
Alors dites-moi de quoi vous voulez me parler.
Je vous parlais de mon parcours qui est certainement atypique et puis de ce que j'ai réalisé dernièrement. Alors voilà, je ne sais pas par où commencer.
Ben, commençons par le début de qui vous étiez et pourquoi ce destin a été assez atypique en fait. De quelle région vous étiez en fait ? Vous êtes né où ?
Moi je suis né dans le Pas-de-Calais.
D'accord.
À Arras. Et je suis arrivé dans le Berry via mes parents qui ont repris une exploitation agricole.
D'accord, parce que vos parents étaient agriculteurs.
En 68.
Hein.
Voilà.
D'accord.
Exactement.
Donc vous arrivez dans le Berry en 68. Vous avez quel âge ?
12 ans.
D'accord. Comment ça se passe à 12 ans ?
Un peu compliqué puisque j'étais parachuté un premier trimestre tout seul dans une école d'agriculture, alors que les parents ils s'étaient restés dans le Pas-de-Calais pour m'habituer soi-disant à l'école pour la rentrée suivante.
Oui.
Donc ça a été déjà un peu drôle pour un petit garçon de 12 ans. Puis après, bon, j'avais quand même surtout, j'étais resté dans le monde uniquement agricole. Je ne connaissais que ce monde-là. Hein, un garçon de 12 ans, il rêve encore d'être agriculteur, bien sûr. Hein, et puis il ne connaît que ce monde-là. Et puis après, j'ai fait un parcours j'ai suivi les écoles dans les lycées agricoles. Et puis, je n'ai eu aucun diplôme. Et je ne me suis pas installé, on m'a installé de force comme agriculteur à 23 ans. Je n'étais pas mature.
Alors, on vous installe de force, c'est-à-dire, dites-moi, dans quelles conditions ? Ce sont vos parents qui vous forcent à ça ?
Oui, vous savez, pour être une ferme un peu plus grande que les voisins,
ouais.
Ça, c'est souvent comme ça que ça se passait à l'époque.
Ouais.
Donc, on m'a dit, parce que toi, tu vas racheter 80 hectares à côté pour pas que le voisin les achète. Et puis, ça a commencé à partir dans des investissements énormes à l'époque, à 23 ans, sans aucune notion de gestion, de comptabilité, de gestion financière. Donc voilà, à 23 ans, je me suis installé en 79 comme exploitant agricole. Et ça a été un fiasco complet, sur des mauvaises terres en plus, payé très cher à l'époque encore. Donc voilà, et au bout de 5 ans, j'ai quand même mûri et puis j'ai tout arrêté, j'ai claqué la porte. Ça a été une des premières décisions de ma vie importante. Donc j'ai claqué la porte et puis je suis parti commercial dans des coopératives agricoles. Ça a été mon premier vrai job. Et par contre, j'avais avec moi des gros, gros problèmes financiers. Ça a duré une dizaine d'années avec tous les problèmes d'huissier, des télégrammes confirmant l'enlèvement de vos meubles jeudi matin avec police, avec les camions de déménagement qui étaient prêts à prendre tous les meubles de la maison.
Oui.
Voilà. Donc ça a été 10 années assez difficiles. Mais malgré tout, j'ai pas baissé les bras. Et puis, on s'en est sorti. Il fallait quand même élever les enfants. Hein. J'ai eu la chance d'avoir une épouse extraordinaire. Donc on s'est battu dans l'adversité. On a réussi à relever la tête. Et puis, à se battre. J'ai eu l'opportunité, dans les années 87, de faire un dépôt de bilan,
oui.
Liquidation judiciaire. Avant, les agriculteurs n'avaient pas le droit.
D'accord.
Et moi, j'étais le premier agriculteur de l'Indre à faire un dépôt de bilan.
D'accord. Un dépôt de bilan, ça vous empêchait de perdre votre maison, par exemple ?
Et puis d'arrêter toutes les problématiques des dettes.
Oui.
Après, il y a un liquidateur qui prend, puis qui répartit ce qui reste. Quoi.
Uh-huh.
Donc ça a été déjà une première chose et j'ai toujours continué après d'être commercial. Et puis j'ai fait ce métier de commercial autodidacte pendant plus de 30 ans, avec des hauts et des bas, hein, comme dans tous les métiers, les périodes. Et suite à un licenciement en novembre 2015, à 60 ans à peine, j'allais avoir 60 ans en 2016, eh bien, j'ai décidé de partir faire une formation de 9 mois. Et à 60 ans, j'ai décroché mon premier diplôme, mon diplôme niveau BTS, de formateur professionnel d'adultes, c'est-à-dire les formations d'adultes dans les chambres de commerce, dans les campus, dans les chambres de métier.
D'accord.
Voilà. Et depuis fin 2016, parce que j'ai décroché mon diplôme le 13 décembre 2016,
ouais.
Avec beaucoup de fierté de la famille, des enfants. Ça a été très dur, cette formation, parce que repartir en formation à 60 ans, c'est pas évident. Surtout quand on a des gens dans la formation qui vous disent « mais à ta place, je resterai au chômage ». Voilà.
Ouais, vous soulignez donc, quelque chose d'important, là. Vous avez toujours ce truc, ce type d'état d'esprit « bah oui, reste au chômage, tu gagnes de l'argent au chômage, donc pourquoi tu t'embêtes à aller travailler ?» Ouais. Or, dites-moi pourquoi vous avez continué, parce que moi, je le sais. Je pense avoir décelé ce que c'est. Mais dites-le, pourquoi vous avez continué à travailler ?
Pour plusieurs raisons. D'abord, peut-être pour ma fierté personnelle, pour être fier de, pour que mes enfants et mon épouse soient fiers de moi, que je ne sois pas au chômage, dans le piège du chômage. Et d'abord, j'étais en retraite qu'au bout de 3 ans. Je savais que je n'allais pas toucher ma retraite à 63 ans. J'avais encore 3 ans à travailler. Donc, je ne voulais pas tomber dans le piège du chômage. Et surtout, j'avais encore une motivation qui était énorme, c'est que j'ai 3 enfants. Et la dernière, qui aujourd'hui, qui a 25 ans, elle est en 4e année de vétérinaire. Et les études supérieures, ça coûte énormément d'argent.
Ouais.
Donc, pour ça, c'était une motivation, comme je dis souvent à des recruteurs ou à des gens qui sont dedans, comme motivation, il y a pire. Donc, ça a été ma plus grande motivation, c'est continuer d'aller rechercher de quoi aider surtout ma dernière fille à faire ses études supérieures. Et d'ailleurs, depuis, je suis en retraite depuis le 1er octobre dernier, octobre 2019, et je continue à travailler. Donc, je suis un retraité dynamique, actif, puisqu'il y a encore 2 ans d'études. Donc, je perçois ma retraite à taux plein, et plus les salaires que j'ai en tant que formateur vacataire.
D'accord. Alors, c'est une question, j'en parlais tout à l'heure avec un ami, justement. On a le droit de toucher sa retraite plein pot et de travailler à côté
Oui. D'accord. Alors, pour ça, il faut avoir liquidé sa retraite à taux plein.
C'est-à-dire avoir droit, être allé au bout pour bénéficier
au maximum de ses droits. D'accord. Ça s'appelle liquider sa retraite à taux plein.
D'accord.
Et si on a liquidé sa retraite à taux plein, ce que j'ai fait au 1er octobre 2019, on peut retravailler le lendemain matin sans plafond de salaire, même dans la même entreprise.
D'accord. Tout en touchant
cette retraite. Tout en touchant mes indemnités de retraite à taux plein. D'accord. Mmh. Par contre, je continue de toucher des feuilles de paye, des salaires, je suis payé, et je continue de payer des cotisations en retraite qui, là, par contre, c'est cadeau.
D'accord.
Apparemment, ils sont en train de regarder ça, que quelqu'un qui est en retraite, qui continue à travailler, il pourrait continuer à cumuler quelques points pour améliorer son montant de retraite.
Et la retraite, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont comme moi, là, qui vous écoutent ce soir et qui ne s'en sont jamais préoccupés. La retraite, c'est calculé comme ça, quand on a été salarié, comme vous. C'est calculé sur quel barème? C'est sur les 10 salaires des meilleures années?
Ah non, c'est les 25, mais ça va changer.
Les 25,
c'est-à-dire ? Moi, c'était sur les 25 meilleures années. Ma retraite a été calculée sur les 25 meilleures années.
Ouais.
Aujourd'hui, quand on arrive à 50 ans, on peut avoir déjà un premier relevé de l'ensemble de sa carrière en tant que salarié.
Uh-huh.
Donc moi, je l'avais tout de suite fait, j'avais tout de suite les repères, 50 ans, 55 ans. Uh-huh. Une fois tous les 2 ans, je demandais, moi c'est la MSA, Mutualité Sociale Agricole, puisque comme j'étais agriculteur, et ma dernière entreprise que j'ai travaillée cotisait à la Mutualité Sociale Agricole. Donc c'est la Mutualité Sociale Agricole qui a liquidé ma retraite, c'est comme ça que ça s'appelle, dans le jargon. J'ai eu un excellent service d'ailleurs. Et après, à nous de contrôler les années, est-ce qu'on a bien travaillé de telle année, on fait un point sur toutes les postes qu'on a eues, et puis si on est OK, voilà, on valide, et puis après, c'est calculé. Alors laissez-moi le calcul, comment c'est calculé exactement le montant. Mais
c'est une sorte de moyenne, une moyenne de tous les salaires ou c'est
Oui, c'est une moyenne de tous les salaires, après avec des points. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des périodes de cadre, donc ça va bien améliorer ma retraite, puisque avec l'Agirc-Arrco, c'est déjà une retraite par point, comme avec tout ce qu'on a entendu dire là, sur les retraites. Mais je ne saurais pas non plus l'expliquer.
D'accord. Mais aujourd'hui, vous avez 64 ans, donc, et donc vous êtes arrivé au bout de cette retraite pleine, hein, c'est ça ?
Oui. À 63, j'avais le droit, je pouvais la prendre au 30 septembre 2019 à 63 ans.
D'accord. Et donc, du coup, vous avez un salaire vous avez une retraite de combien et un salaire de combien ?
Eh bien, moi, ma retraite, elle tourne à 1 700 euros.
Oui.
Et puis, avant mes mois de formation, le mois dernier, j'ai perçu 2000 euros. Le mois de mars, il va être un peu moins plus calme. Je vais percevoir autour de 1400, 1500 euros. Mm-hmm. Et ça, c'est voilà.
Bon,
c'est
content,
ça paye les études de ma fille.
D'accord. Non, mais on voit combien, c'est tout de même. Vous avez 64 ans et vous avez encore la pêche pour travailler. Je suppose que vous avez envie de continuer de travailler parce que ça vous nourrit intellectuellement, socialement.
Je rencontre des stagiaires de tous niveaux, de tous les âges. Je fais des créateurs d'entreprises, ceux qui viennent créer un business plan dans les CCI ou dans les chambres de métiers. Ouais. Et puis j'ai des classes d'attaché-co. Donc je parle beaucoup de mon expérience, l'expérience vécue.
Alors, bien évidemment, lorsqu'on voit les manifestations partout qui se sont passées autour de la retraite, j'entends des gens dire « Ah, mais oui, mais bon, personne ne veut bosser dans ce pays. » Bon, il y a des métiers qui sont beaucoup moins pénibles que d'autres. Hein, et quand on est formateur comme vous, comme moi, j'ai la chance de faire un métier qui est même fatigant. Il est fatigant, mais bon, on a cette chance de faire des métiers de contact, où on apprend aux autres. Moi, ça m'arrive aussi de donner quelques cours parfois à des étudiants. Je trouve que, à 64 ans, on a encore la pêche, quoi. Si la vie, bien évidemment, nous a préservés. Hein, et que...
Je fais aussi dans certaines formations du TRE, je fais technique recherche d'emploi. Et je parle beaucoup d'une expérience, du vécu que j'ai connu. Oui. À 56 ans, j'ai eu une période de chômage. Et je suis resté à 56 ans, 15 mois au chômage. Et je le raconte, j'ai envoyé en 15 mois 637 CV.
Oui.
Alors, c'est beaucoup. 637 CV sur 15 mois, ça fait un CV et demi par jour d'envoyé. Il est vrai, dans le commercial, il y a quand même encore beaucoup d'offres dans le métier de commercial.
Oui, il y a du boulot.
Mais quand même, si je m'étais arrêté au 636e CV, je n'aurais pas eu ce 8e entretien. Sur 637 CV, j'ai eu 8 entretiens, le 8e a été le bon. Et j'ai retrouvé un poste à 36 KE, 3000 euros brut, plus 4% de variable, plus voiture de société, etc. etc. à 56 ans. Donc les gens, ils disent, s'il y a 56 ans, il y en a qui se trouvent trop vieux, il n'y aura plus. Ouais, mais il n'y a plus de boulot à partir de 50 ans.
Non,
mais
c'est non, pas vrai. Bah, c'est
par
pas
contre,
vrai. Il y a du
par
boulot.
Contre, il faut pas baisser les bras.
Il y a toujours du boulot, mais il faut s'accrocher, en fait.
Oui, il faut décider de faire des choses. J'ai fait en 2017 quelque chose d'extraordinaire parce que j'étais 30 ans obèse et les 20 dernières années, j'étais en obésité morbide même.
Ah oui, d'accord. Dites, vous avez quand même un sacré courage, vous. Hein.
J'étais à 134, 135 kilos, j'étais un IMC de 41 et j'ai fait tous les régimes pendant 30 ans. J'ai perdu une tonne et demie.
Et pourquoi ça ? Et pourquoi ça, en fait, vous étiez obèse ? Vous savez, c'était...
Oui. Moi, je pense que les soucis que j'ai eus à l'époque, j'ai grossi à cause des soucis que j'ai eus, des soucis financiers.
Ouais. Vous grignotiez, vous mangez enfin,
gros mangeur.
Ah oui.
Et du coup, j'ai eu un déclic au mois de mars 2017 et j'ai perdu 41 kilos en 6 mois, sans opération, sans médicaments, sans dépenser un centime. Mmh. J'ai travaillé le mental, la préparation mentale, puisque j'ai un fils qui est pilote de chasse, j'ai une fille qui est sage-femme à Tahiti, et puis j'ai une dernière qui est en quatrième année de veto. Donc on est fiers de nos trois enfants, pour un autodidacte. Maintenant,
Vous avez peu parlé de votre femme aussi.
Mon épouse, elle a été 42 ans dans la même entreprise, elle est en retraite depuis le mois d'août dernier, elle était laborantine dans un laboratoire d'analyse médicale.
D'accord.
Et elle est épanouie comme jamais aujourd'hui, parce qu'à 42 ans d'ancienneté dans la même entreprise, elle a fait le tour.
Ouais, puis vous savez, il y a des gens aussi qui savent que faire de leur retraite. Moi, je sais que je ne sais pas m'occuper autrement qu'en travaillant. Donc, pour l'instant, peut-être ça changera, mais peut-être c'est pareil pour vous. Je ne sais pas si le fait de vous arrêter de travailler vous fait peur parce que on peut s'ennuyer à la retraite aussi. On peut ne pas avoir appréhendé ça, en fait. On pense qu'on va être libre, mais bon, il faut quand même, quand on est toute la journée libre et qu'on n'a que s'occuper de nous à faire, c'est pas... En tout cas, moi, ça me fait peur. Ouais, je sais que je peux m'ennuyer.
Quand je commençais à perdre beaucoup de poids, imaginez 41 kilos en 6 mois, quand les gens me voyaient semaine après semaine, mais comment tu fais Pascal, comment tu fais ? Puis en rigolant, je disais, tu liras mon livre. Je rigolais en disant ça, hein, parce que moi autodidacte, j'étais pas fort, je suis pas fort en orthographe, etc. Et puis je rigolais, ouais, comment tu liras mon livre, en rigolant. Puis un jour il y a quelqu'un qui m'a piqué, qui me dit, Pascal, tu peux me le dire à moi, tu t'es fait opérer? Et là je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, eh ben tu liras mon livre. Et je suis rentré chez moi, bon, arrête de dire un jour je vais faire mon livre. Je n'y connaissais rien dans l'écrit, dans le livre, et j'ai créé un livre, j'ai sorti un livre, quand la tête fait maigrir, bon, il est partout, sur Amazon, sur Fnac, Cultura aujourd'hui, quand je l'ai fait imprimer, on a dit, oh ben, celui-là, quand il en vendra 50, ça sera bien. Bon, pour l'instant, je suis à plus de 2500 livres vendus.
Comme ça, auto-édition ?
Auto-édition. Auto-édition. Super. J'en ai imprimé 1200 moi-même par un imprimeur Châteauroux. Et puis après, parce que c'est énorme, le travail, c'est un travail énorme. Et il a même été préfacé par mon médecin de famille qui ne croyait pas à mon aventure, qui pensait que c'était pas possible que je perde du poids, qui voulait mettre un cachet en hypertension parce que j'étais à 19 de tension. Et quand elle m'a dit à vie, j'ai dit, arrête, regarde-toi dans une glace, reprends le contrôle de ton corps. Et puis voilà, j'ai démarré cette aventure de perdre du poids.
Bon, c'est passé par le mental, mais le mental, je me doute, hein, j'ai pas lu votre bouquin encore, mais je vais le lire. C'est passé par le mental, prendre le contrôle de son corps, c'est reprendre le contrôle de ce qu'on mange aussi, non ?
Ah ben oui, moi j'ai supprimé 4 aliments et tout le reste à volonté. Mais pour les supprimer, pour pas que ce soit une frustration, il faut que la tête soit OK.
Ouais. C'est quoi, d'accord, ces 4 aliments ?
Alors, j'ai supprimé l'alcool, le pain, les féculents et les sucres rajoutés. Quand j'ai des féculents, c'est surtout les frites, hein, tout ce qui est gras, féculents.
Ouais,
on peut manger des lentilles, c'est des féculents. Alors le pain, moi je pouvais manger une baguette à moi tout seul le midi.
Ouais. Le pain, les pâtes.
J'ai supprimé ça, et rien qu'en faisant ça, et je continue de manger. Aujourd'hui, tout le monde, et j'ai 7200 personnes qui me suivent sur ma page Facebook professionnelle, tout le monde me réclame un livre de recettes. Ce n'est pas un livre sur un régime, mais quand ils voient tout ce que je mange, je mets les photos de ce que je mange régulièrement sur ma page. J'ai dit, attends, on va commencer à essayer de vendre. Je l'ai traduit en anglais américain, et il est en train de démarrer sur Amazon.com aux États-Unis. Je cherche une traductrice ou un traducteur chinois pour traduire mon livre en chinois. Il y a 600 millions de Chinois obèses.
600 millions de Chinois obèses, ouais.
Oui, c'est énorme. Sur France 2, je ne voulais pas le croire. Hein. Moi, je croyais qu'ils étaient tous comme mon petit doigt. J'ai vu le reportage. Dans certaines entreprises en Chine, ils les font peser en début de mois. Et à la fin de mois, s'ils ont perdu du poids, ils leur donnent une prime sonnante et trébuchante. On s'est rendu là.
Ouais.
Donc je me suis dit, tiens, mais pour
et Dieu sait si et Dieu sait s'ils en mangent du transformé, hein, du sucre rajouté.
Oui, ils sont tombés, c'est les Chinois, la consommation, le McDo, quoi, entre guillemets, ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas péjoratif. Hein,
et le sucre rajouté, justement, Pascal, en fait, il y en a partout. Comment vous faites pour... il y en a même dans le pain de mie, il y en a... j'ai vu ça dans la moutarde.
Le pain est très sucré, je prends de la moutarde douce. Je parle des sucres rajoutés, c'est-à-dire, je mange beaucoup de fruits, dans les fruits, il y a du sucre.
Ouais.
Ça, c'est des sucres, tout ce qui est sucre naturel, ça va. Mm-hmm. Et puis, dans tous les aliments que j'achète en boîte, eh bien, je regarde qu'une seule ligne, dont sucre. Et si ça dépasse 10 grammes pour 100 grammes, je n'achète pas. Donc c'est énorme, hein, mais quand on regarde dans son épicerie à la maison, tous les paquets où c'est marqué la ligne dont sucre, alors c'est des 27 grammes, 30 grammes, 40 grammes. Et moi, depuis le 1er avril 2017, je n'achète plus d'aliments où ça dépasse 10 grammes. Donc voilà.
Où ça ne dépasse pas 10 grammes pour 100 grammes.
Ouais, sur la ligne où il y a protéines, glucides, tout ça, là. Je regarde que la ligne dont sucre et je m'interdis tout ce qui dépasse 10 grammes pour 100 grammes.
D'accord.
Et le résultat, il est là, quoi. Je n'avais pas besoin de mon médecin de famille qui fasse la préface, parce que pour un médecin qui fasse une préface d'un livre, il faut d'abord qu'il lise le livre, hein, parce qu'il ne s'est pas mouillé comme ça, mais il n'était pas obligé de me le faire, mon médecin de famille. Et puis, elle m'a fait une préface, j'en ai pleuré, même les larmes aux yeux, quand j'ai reçu la préface de mon médecin de famille, quoi. Donc j'ai commencé à faire des dédicaces. J'ai fait un magazine sur le magazine de santé avec Marina Carrère d'Ancos.
Marina, que je connais bien,
ouais. Ouais, Marina, elle m'a reçu l'an dernier. Ouais, extraordinaire.
Et vous avez perdu 41 kilos, donc vous en faites combien maintenant ?
autour de 84-85.
Ouais, c'est génial. Génial.
Pour 134, j'ai perdu 50 kilos en 10 mois.
Ah oui, c'est plus que ça, oui, parce que vous faisiez 134. Donc c'est,
oui, oui. Oh, c'est puis génial, quand, comme dit mon épouse, 134, c'était plutôt à 137. C'est quand on est obèse, on dit. J'ai vécu la grossophobie dans ma vie. Moi, j'en rigolais. Quand j'étais en entretien d'embauche avec 134 kilos, s'ils voient les photos, pourquoi vous, monsieur Delattre? Je regardais le recruteur en face dans les yeux. Je dis, vous savez, j'ai encore faim financièrement. Je faisais des gestes avec les doigts, même si ça ne se voit pas sur moi, parce que j'ai encore une fille qui fait des études supérieures. J'essayais de jouer de mon poids. Et puis je regardais le recruteur, puis je dis, vous savez, je mettrai tout mon poids dans la balance. Moi, j'en jouais, même si tout seul, c'était dur, parce que j'étais en train de vivre, j'étais essoufflé. Puis, je crois, le déclic aussi, c'est parce que depuis que j'ai fait les formations, j'avais le regard des autres du matin au soir.
Ouais.
Quand j'étais commercial sur la route, de rendez-vous le matin, de rendez-vous l'après-midi, tout seul dans ma voiture, bon, c'était un peu moins gênant. Dans une classe où je voyais tous les stagiaires, je voyais bien comment ils visageaient, malgré tout. Hein. Et puis c'est normal, c'est l'être humain qui est comme ça. Hein. Bon, il nous donne des conseils et il regarde comme il est gros. Enfin, j'imaginais, moi, j'ai vécu la grossophobie. Et... Donc c'est pour ça, les gens, quand je fais des dédicaces ou autres, ils disent, ben, ce qu'on aime bien, c'est que c'est du vécu, toi. C'est pas quelqu'un qui fait 50 kilos qui va expliquer comment perdre 50 kilos. Quoi. Mais ça, c'était quelque chose qui était inimaginable.
Allez-y, quand, quoi?
Oui, ben, c'était inimaginable en 2017. Je crois que ce que je dis aujourd'hui, c'est que quand vous avez une idée, couchez-la sur papier et il faut aller jusqu'au bout peut-être de l'idée. Après, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Peut-être mon livre, il aurait fait petit. Peut-être que j'en aurais vendu 100 exemplaires. Mais au moins, j'aurais été fier. J'ai fait quelque chose et j'ai été jusqu'au bout. Ça a marché, ça n'a pas marché. Mais et je suis fier.
Vous mettiez l'eau dans tout ça? Est-ce que vous avez bu beaucoup d'eau ou ça n'est pas nécessaire?
Oh, je bois beaucoup d'eau, oui. J'adore. Et mes enfants m'ont fait un beau cadeau quand j'ai commencé cette aventure.
Ouais.
C'est que pour la fête des pères, ils m'ont envoyé une caisse de 20 bouteilles d'eau du monde.
Oui.
Il y a des eaux à 10 euros la bouteille, il y a des eaux à 40 euros la bouteille. J'ai des eaux d'un iceberg du Canada, j'ai la Vosse, etc. Et j'ai découvert, il y a un site qui s'appelle Les Eaux du Monde, et on peut commander des eaux. Il paraît que j'ai jamais été, j'aimerais bien, peut-être Olivier, vous connaissez, mais il y a des bars à eau dans les grandes métropoles comme à Paris, où on boit que de l'eau, et on déguste de l'eau. Et moi, j'ai été dans mon livre, je raconte, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes et de métaphores dans mon livre, mais un jour, j'étais avec des amis, nous avaient invités à manger, et on est arrivé avec une bouteille dans un papier. Ils pensaient que c'était, comme d'habitude, une bouteille de vin, et j'ai apporté une bouteille d'eau. Il a regardé, il dit, on m'a jamais fait ce coup-là, Pascal.
On
va déguster.
Ouais, c'est très
et
bien.
On a dégusté une bouteille, et ils ont joué le jeu.
Vous ne buvez que de l'eau aujourd'hui, en fait.
Ah oui, que de l'eau, et je me fais un plaisir énorme à déguster. Je change beaucoup, souvent, je déguste.
Oh, génial. Comment s'appelle votre bouquin ?
Quand la tête fait maigrir.
Quand la tête fait maigrir, et donc on le trouve facilement sur Internet, je suppose.
Amazon, oui, sur Amazon, sur Fnac, Cultura, et puis j'ai créé un site Internet, pascaldelatte.fr. Et sur pascaldelatte.fr, ils verront les photos avant,
vous appelez Delattre ?
Non. Hein, comment
Pascal Delattre, d'accord.
Pascal Delattre, D-E-L-A-D-E-R-E.
Delattre, d'accord, parce que je me disais, oui. J'ai un voilà, de la croix, je
Pascal
pensais que vous appelez comment.
Pascaldelattre.fr.
D'accord, voilà. Très bien. Bon, eh ben, écoutez, c'est vraiment génial, parce qu'on voit que, en fait, on voit que vous n'avez jamais rien lâché, professionnellement, évidemment. Vous n'avez jamais rien lâché professionnellement. Et que vous avez toujours eu de la suite dans les idées. Et finalement, ce livre, il synthétise un peu tout ce que vous avez mis dans votre vie depuis le début, c'est-à-dire que vous êtes toujours accroché, que vous n'avez jamais laissé tomber, et surtout que vous avez toujours voulu bouger, évoluer, et vous hisser un peu toujours plus haut. Et pour ça, c'est vraiment, je crois que ce n'est pas étonnant, ce livre, même si votre médecin de famille a au début dû être surpris de cette demande de préface. Bon.
Il y a un extrait gratuit, il y a les 23 premières pages qui sont gratuites sur pascaldelattre.fr.
D'accord. Mais vous savez, Pascal, 2500, je le dis pour toutes nos auditrices et nos auditeurs, vendre 2500 livres comme ça en auto-édition, oui, c'est vraiment une performance. Hein. Vous êtes en train de...
Ah mais oui.
Moi, je vous le dis, je peux vous le dire, je connais un peu.
Bah, hein. Je rêve qu'un éditeur national s'intéresse quand même à mon livre.
Oui, mais bon, pour l'instant, c'est bien. Oui, oui. Cette aventure, elle est belle comme ça et vous verrez. Vous verrez la suite. Il faut, il faut écrire un tome 2, là. Et peut-être que ce sera le tome 2 qui intéressera un... Parce que je vous signale une chose, c'est que quand Amazon ou en auto-édition, on signe un bouquin et qu'il marche, je peux vous dire que ils sont pas fous, hein, ceux qui vous signent. J'espère que vous avez bien lu votre contrat parce que vous pouvez pas l'enlever comme ça, votre bouquin.
Oui,
et ça,
oui,
c'est normal, c'est le jeu, hein, c'est le jeu. Bon, écoutez, je vous félicite, mille merci pour
merci
votre
à
témoignage
tous,
et puis
tous les auditeurs qui écoutent.
Écoutez, portez-vous bien, hein, vous embrassez toute la famille pour nous.
Merci beaucoup, Olivier.
Portez-vous bien, Pascal.
Plaisir.
Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.